Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention, et pourtant, il y a des nouveau-nés, des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, tête-cou. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. De quoi s'agit-il? Quels troubles causent-ils chez les patients et comment les prendre en charge? Dans cet épisode, Romain Luscan, praticien hospitalier dans le service ORL et chirurgie cervico-faciale pédiatrique à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Brigitte Fauroux, qui dirige l'unité du sommeil de l'enfant de l'hôpital Necker. Et enfin, écoutez le témoignage de la mère de Nour. Sa fille de 8 ans est atteinte du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé.
Bonjour, je suis Romain Luscan, praticien hospitalier dans le service d'ORL et chirurgie cervico-faciale pédiatrique à l'hôpital Necker, enfant malade à Paris.
Docteur, merci de nous accueillir donc à Necker pour parler de cette pathologie. Est-ce que vous pourriez, pour commencer s'il vous plaît, nous expliquer précisément de quoi il s'agit ?
Ça correspond au fait que pendant le sommeil, les voies aériennes supérieures de l'enfant, donc les tissus de la bouche, au-dessus du larynx et de la trachée, vont se collaber et bloquer la respiration, ce qui va entraîner une apnée, donc un arrêt respiratoire qui va durer plus de 10 secondes, et donc c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil.
Se collaber, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Se collaber, ça veut dire se coller. Normalement, les voies aériennes, on peut les séparer en deux parties, les voies aériennes supérieures tout ce qui est partie pulmonaire. Et donc les voies aériennes supérieures, on a les cavités nasales, buccales, l'oropharynx et le larynx, qui sont en fait des structures en partie molles. Contrairement à la trachée qui après va être plus rigide et qui est plus un tube rigide, comme on pourrait imaginer un tube de tuyauterie. Et donc ces parties molles, elles doivent laisser passer l'air et avec différents facteurs dont on va reparler, eh bien elles peuvent vraiment s'invaginer, se coller et du coup on n'a plus de place pour que l'air passe.
Combien de cas en France peut-on comptabiliser ? Est-ce que vous avez des chiffres sur l'incidence ?
Oui, on sait que c'est une pathologie extrêmement fréquente. D'accord. On n'a pas de chiffre exact, c'est difficile à quantifier, mais on estime environ 2 à 5% des enfants de moins de 6 ans.
Vous dites avant 6 ans, ça veut dire que c'est une pathologie dont le diagnostic peut être posé à quel moment ?
C'est en majorité entre 2, 3 et 6 ans. D'accord. Mais il existe des syndromes d'apnée du sommeil extrêmement précoces, souvent associés à des maladies un petit peu plus complexes qu'on voit à Necker, des malformations ou des particularités anatomiques qui font qu'on peut avoir des syndromes d'apnée du sommeil dès les premiers jours, semaines de vie. Mais globalement, pour le grand public, c'est une pathologie qui touche l'enfant entre 2 et 6 ans et qui va réapparaître également à l'adolescence. Deuxième pic d'âge à l'adolescence, lié à de nouveaux facteurs qui apparaissent, et notamment l'obésité, hein, qu'on a peu autour des plus jeunes.
Qu'est-ce que ça provoque chez le patient, cette apnée ? Quel est le quotidien de ces enfants ? Est-ce que ce sont à chaque fois les mêmes symptômes ? Est-ce que c'est variable ?
Les symptômes, ils sont effectivement reproductibles et toujours un petit peu les mêmes chez les enfants. Les parents vont vraiment être les premiers à pouvoir détecter ces symptômes, et ils peuvent les détecter très facilement. Les symptômes, c'est tout d'abord le ronflement. On a tous eu une ou deux fois notre enfant qui ronfle, il suffit qu'il soit malade pour qu'il ronfle un petit peu. Donc là, on ne s'inquiète pas. Mais si le ronflement, il est toutes les nuits, si ce ronflement, il devient sonore, que le frère qui dort dans la même chambre, le cousin pendant les vacances dit bah, « à cause de lui, on ne peut plus dormir », là, on se dit « c'est un ronflement déjà pathologique ». Du coup, la famille commence à s'intéresser au sommeil de l'enfant et va dire « tiens, j'ai l'impression que la nuit, effectivement, même maintenant qu'il ronfle beaucoup, je suis allé le voir dans son sommeil et je l'ai entendu arrêter de respirer ». Si c'est quelques secondes, microsecondes, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, si ce ronflement s'arrête plusieurs secondes et nous inquiète, là, il faut vraiment se poser la question de l'apnée du sommeil.
C'est au bout de combien de secondes qu'on peut...
En théorie, 10 secondes. 10 secondes pour une famille, c'est une éternité. Hein. Quand votre enfant s'arrête de respirer 10 secondes, si vous avez l'impression que plusieurs fois dans la nuit, ces ronflements très sonores s'arrêtent et que on a un enfant qui refait un bruit inspiratoire très fort pour respirer, là, il faut vraiment se poser la question d'apnée. Donc, ronflement, apnée... Troisième symptôme, ça va être les réveils fréquents. Mon enfant a un sommeil qui va commencer à se déstructurer du fait de ses apnées, ça va le réveiller, et lui, bah forcément, il va m'appeler. Donc, c'est des enfants qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit, et éventuellement, qui se remettent à faire pipi au lit. Autre symptôme nocturne, c'est les sueurs nocturnes. Cette déstructuration du sommeil fait que, eh bien, la journée, on va également avoir des symptômes. Les symptômes, c'est la fatigue. Un enfant fatigué, vous avez sûrement déjà vu des enfants à des mariages ou des enfants fatigués, c'est plutôt des enfants turbulents, hyperactifs, avec des troubles de concentration, avec une irritabilité, une labilité de l'humeur. Et c'est plutôt ça les symptômes de fatigue la journée que la somnolence.
Une fois que ce diagnostic est posé, que pouvez-vous faire ? Et est-ce qu'il y a des opérations qui sont possibles ?
Alors oui, tout à fait. Avant ça, il y a la question de comment on pose le diagnostic. Chez l'enfant, les symptômes décrits par les parents suffisent à faire l'hypothèse d'un syndrome d'apnée du sommeil. Cette suspicion va impliquer que le parent vienne consulter un ORL, pédiatre, un spécialiste en ORL du sommeil de l'enfant. Et l'ORL va aller rechercher des obstacles.
Et alors, qu'est-ce que c'est, ces obstacles ?
Deux obstacles extrêmement fréquents, c'est l'hypertrophie des amygdales, donc les boules qu'on a dans le fond de la bouche, qui sont des organes lymphoïdes, donc des organes qui vont rencontrer les virus, les bactéries et faire l'immunité de l'enfant. Et puis parfois, eh bien, les amygdales se dérégulent et s'hypertrophient et donc deviennent très grosses et ne sont plus en plus capables d'effectuer bien leur travail. Et également, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, qui sont d'autres organes lymphoïdes qu'on a dans le fond du nez, au niveau du cavum. Et pourquoi de la nuit ? Eh bien, parce que la journée, on va le voir, les enfants vont compenser. Donc vous avez un enfant qui est tout le temps toujours la bouche ouverte. Bah oui, le nez est bouché, je respire par la bouche. La bouche un peu béante, pourquoi ? Parce que bah, du coup, on fait de la place, on abaisse un petit peu la langue et on fait du passage. Et un autre symptôme extrêmement fréquent, c'est que les enfants, c'est les enfants qui ont du mal à manger. Vous savez ce qu'on appelait les appétits d'oiseaux avant ? Ils coupent en tout petits morceaux, ils veulent manger que lisse, que des textures faciles. Bah, parce que vous avez des grosses boules dans la bouche qui vous empêchent de respirer. Je vais bien la journée parce que je suis bouche ouverte, mais dès que je mets un aliment un peu compliqué dans la bouche, bah, j'étouffe. Et donc, c'est des enfants qui ont du mal à manger et qui deviennent un petit peu maigres et qui perdent du poids. Ensuite, on a des obstacles un petit peu plus rares et qu'on voit plus fréquemment, soit plus tard à l'adolescence, soit dans le cadre de syndromes. C'est des obstructions au niveau du nez, les obstacles au niveau des cornets ou des déviations de cloison qui sont rarement symptomatiques chez l'enfant. Et puis après, des toutes petites fosses nasales ou des obstacles au niveau de la base de langue. La langue qui est trop grosse, qui recule, qui n'est pas assez tonique ou un trouble de tonicité globale qu'on voit typiquement dans la trisomie 21, qui est une pathologie qui est fréquemment associée à de l'apnée du sommeil.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette consultation ? Donc, vous conseillez évidemment très vite de solliciter un ORL. Comment ça se passe ?
Premièrement, je pense qu'on peut commencer effectivement par aller voir son médecin généraliste ou son pédiatre. Le premier obstacle à rechercher, comme on l'a dit, c'est de grosses amygdales, l'hypertrophie des amygdales. Et ça, c'est un simple examen endobuccal. À la consultation ORL, effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, premier point, on va regarder dans la bouche s'il y a de grosses amygdales. Et puis, deuxième point, on va aller rechercher une hypertrophie des végétations. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle une nasofibroscopie. Et donc, on va passer une toute petite caméra dans le nez de l'enfant pour aller rechercher des obstacles et être capable de mieux expliquer à la famille, voilà les obstacles que j'ai objectivés et voilà pourquoi et comment je vais les traiter.
Une fois que ce diagnostic est posé, donc, que pouvez-vous faire et quelles sont les opérations possibles ?
Avec une intervention assez simple, on guérit l'immense majorité des syndromes d'apnée du sommeil. Et c'est vraiment une joie d'ORL pédiatre et d'ORL qui traite ses enfants, parce qu'on vient avec des parents désespérés, un enfant qui dort pas, qui devient turbulent, qui vraiment, on voit, mon enfant a du mal à respirer la nuit, il s'étouffe et ça va plus la journée, aidez-moi, on l'opère et il est guéri. Et ça, c'est à peu près 90% des enfants. L'intervention dépend évidemment du site obstructif. Comme on l'a dit, dans l'immense majorité des cas, l'obstacle, c'est amygdale et ou végétation. Donc le traitement de première intention, c'est ce qu'on appelle l'adéno-amygdalectomie. On enlève les végétations et on enlève partiellement les amygdales. On enlève les amygdales qui dépassent.
Quel suivi ensuite ? Est-ce que des symptômes peuvent réapparaître ?
Dans l'immense majorité des cas, on l'a dit, j'ai des grosses amygdales, j'ai des grosses végétations, on m'opère et je guéris. Et donc là, on revoit l'enfant une fois en post-opératoire et on explique à la famille qu'on ne se revoit plus. Pour les syndromes d'apnée du sommeil plus complexes ou pour les syndromes d'apnée du sommeil appareillés, à ce moment-là, il faut un suivi à moyen et long terme avec une surveillance de l'efficacité de notre traitement chirurgical si on a eu besoin de plusieurs procédures ou du traitement par ventilation non-invasive.
Quelles améliorations en termes de prise en charge on peut viser, espérer ?
Je pense que déjà, on a la chance d'avoir énormément progressé dans ce domaine, j'allais dire les 10 dernières années. Premier point, avant, et peut-être que ça reste un point de réticence pour les parents, parce que ceux qui ont été opérés d'une amygdalectomie il y a quelques années ont été opérés d'une amygdalectomie totale. On enlevait complètement l'amygdale. C'était une chirurgie tout aussi facile, entre guillemets, mais avec des suites opératoires beaucoup plus complexes. Donc ça a traumatisé les familles et parfois ils viennent très réticents de cette chirurgie. Progrès récent dans ce domaine, on ne fait plus aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, d'amygdalectomie totale, on fait une amygdalectomie partielle, et c'est des suites opératoires beaucoup plus simples. Une douleur nettement réduite et contrôlée, et un risque hémorragique qui est devenu exceptionnel, un risque de saignement exceptionnel. Deuxième évolution, c'est le développement de l'endoscopie sous sommeil induit, des enfants qu'on n'était pas capable de traiter avant, et grâce à ces examens sous anesthésie générale, on découvre de nouveaux gestes obstructifs, et donc on a été capable ces dernières années de traiter des enfants qui ne l'étaient pas avant. Grâce à cette évolution, nouvelle perspective pour l'avenir, eh bien effectivement, on a aujourd'hui des obstacles qu'on n'est pas encore en mesure de bien traiter, entre guillemets, qu'on sait traiter, mais nos résultats sont moyens. Et donc ça, c'est vraiment une perspective, puisqu'on est capable de trouver d'autres sites obstructifs, comment les traiter au mieux ? Je parle notamment de la langue. On n'est pas très bon sur une langue qui bascule en arrière. Aujourd'hui, on sait réséquer la base de langue et on a des résultats. On est en train de publier notre série avec des résultats extrêmement intéressants. Dans les perspectives également, dans le diagnostic, hein, on peut imaginer qu'aujourd'hui, donc, les parents viennent nous décrire des symptômes et finalement, ils ont une grande responsabilité parce qu'on leur dit « tout ce que vous décrivez, ça me fait penser à de l'apnée. Et comme je vois des obstacles, je suis d'accord avec vous, c'est de l'apnée, on l'opère. » Et de temps en temps, les parents nous disent « oui, mais je suis moins sûr. Ah, et puis, ils ronflent peut-être un peu, mais je ne suis pas sûr. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a l'enregistrement du sommeil qui permet, effectivement, on va enregistrer le sommeil de l'enfant, mais les délais sont longs, l'accessibilité est complexe. Et une des perspectives qu'on pourrait imaginer qui est en cours de développement, c'est tous les autres systèmes grâce à des objets connectés, grâce au smartphone, grâce à différents enregistrements, smartphone, matelas connectés. Imaginez si demain, votre téléphone dit « j'ai l'impression que votre enfant dort mal la nuit ». Ça pourrait être une perspective intéressante. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant de dépister tôt ? Parce que les répercussions potentielles pour votre enfant, elles sont quand même non négligeables. Il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas une urgence thérapeutique. Mais un syndrome d'apnée du sommeil, ça a des conséquences sur le moyen long terme, que ce soit sur le plan cognitif, on a un moins bon développement, on a plus de mal à apprendre, on a des répercussions cardiovasculaires. Et donc plus on dépiste tôt, meilleur on serait dans la prise en charge.
C'était le podcast Maux de tête proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, écoutez le professeur Brigitte Fauroux, qui dirige l'unité du sommeil de l'enfant de l'hôpital Necker. Et le témoignage de la mère de Nour, sa fille de 8 ans, est atteinte du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts.